Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, désarmé. Le texte que nous venons de lire est une prophétie écrite par le prophète Ésaïe. Bien sûr, elle a été écrite quelques 700 ans avant sa réalisation par la naissance de Jésus-Christ. Et si vous faites attention, ce texte se présente comme un faire-part de naissance. Et le faire-part de naissance, c'est toujours les parents qui envoient aux personnes qui les aiment, qui sont concernées, ce faire-part de naissance. Et là, nous avons l'annonce qui est faite par le Seigneur Dieu lui-même. Et l'annonce est adressée non pas à quelques personnes, non pas seulement au peuple d'Israël, mais elle est adressée à toute l'humanité. Oui, nous sommes tellement heureux de vous l'annoncer. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et vous avez bien sûr dans le faire part les noms de l'enfant. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sont des noms qui sont donnés à cet enfant comme des titres programmatiques ou des titres qui anticipent qui il sera et ce qu'il fera. C'était comme ça que ça se passait lorsqu'un homme accédait au trône, devenait roi. On lui ajoutait des noms et ces noms étaient symboliques de ce qu'on espérait qu'il réalise. Mais là, il ne s'agit pas simplement d'une espérance, il s'agit d'une annonce certaine. C'est l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant a été la réponse parfaite à un peuple qui était dans la détresse. Et ce peuple vivait même dans les ténèbres de l'obscurité. Parce que le peuple d'Israël est un peuple qui a été constamment attaqué par des ennemis qui l'entouraient. Et à l'époque du roi Akaz, c'est-à-dire à l'époque du prophète Ésaïe, il y avait le roi de Syrie et le roi d'Israël, le royaume du Nord, puisque le royaume d'Israël était divisé en deux. Ces deux rois se sont alliés pour attaquer le roi Akaz. Et ce roi, au lieu de se tourner vers Dieu et attendre de lui son secours, il a réfléchi comme un être humain et il s'est dit: je vais faire appel à la plus grande puissance de l'époque, elle va me protéger. Et la plus grande puissance de l'époque, c'était le peuple assyrien. Mais vous savez, lorsque vous faites appel à un empire, qu'est-ce qui vous arrive souvent? Vous vous faites dévorer par l'empire à qui vous avez demandé le secours. Et c'est ce qui va exactement arriver au peuple d'Israël. Akaz demande au roi assyrien qui s'appelait Tiglath-Pileser de venir le secourir. Le roi n'attendait que ça, il dit: ah, tu m'appelles à ton secours, ben, je vais te montrer. Il arrive, il envahit tout le monde. Et ce peuple était un peuple vraiment cruel. C'était des peuples qui faisaient des choses abominables. Il s'est acharné sur tous les royaumes qui l'environnaient et il les a vraiment installés dans l'angoisse et dans les ténèbres. C'était une misère noir dans laquelle le peuple d'Israël, le royaume du Nord et le royaume du Sud s'est retrouvé. Et alors, Dieu qui voit la détresse de ce peuple, qui voit qu'il est dans les ténèbres de l'angoisse, va lui annoncer la libération. Ce n'est pas simplement une libération des ennemis humains, c'est-à-dire des Assyriens, c'est une libération aussi de la misère spirituelle dans laquelle le peuple se trouvait. Parce que le roi Akaz et le peuple d'Israël, ne voyant pas que Dieu vienne à leur secours, ils se sont dit, les dieux des autres nations sont meilleurs, nous allons les adorer. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils sont tombés dans des ténèbres encore pires que l'esclavage de leurs ennemis humains. Et Dieu leur annonce cette délivrance qu'il allait opérer à leur égard. Et celui qui va opérer cette délivrance, c'est un enfant. Un enfant va naître et cet enfant va apporter la libération. Non pas simplement la libération du joug de l'esclavage des ennemis d'Israël, mais la libération du pire des ennemis, c'est-à-dire le mal et le péché qui obscurcit les horizons de l'humanité. Et le Seigneur parle donc de cet enfant. Voilà, un enfant va naître. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Admirable. Je voudrais m'arrêter sur ce mot-là ce matin. Et vous savez, parfois, on est tellement frustré parce qu'on a vraiment envie d'avoir des paroles merveilleuses pour susciter l'admiration dans le cœur des croyants. Et c'est ma prière ce matin, vraiment, que Dieu remplisse ma bouche de prière pour que votre bouche à vous soit remplie de paroles d'admiration à l'égard de celui qui est l'admirable. Et pour vous réveiller un petit peu, chaque fois que dit « n'est-ce pas qu'il est admirable ?», vous allez répondre « oui, Seigneur, tu es l'admirable ». On va faire un essai. N'est-ce pas qu'il est admirable ?
Oui, Seigneur.
Ah, ça c'est super, voilà. Oui, Seigneur, vraiment, Jésus est l'admirable. Nous avons une merveilleuse promesse de la part de Dieu qui nous dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, vous savez quoi ? Il va susciter du cœur et de la bouche de son peuple qu'il viendra chercher des paroles d'admiration. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, je vous lis le verset. Lorsque Jésus reviendra, il sera honoré dans la personne du membre de son peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il sera tellement glorieux et resplendissant que nous tomberons à genoux et nous aurons la bouche bée. Nous ne trouverons pas les mots pour exprimer notre adoration, notre admiration à l'égard de ce Sauveur. Parce qu'il sera tellement resplendissant de lumière. Mais nous ne voulons pas attendre ce jour-là. Nous voulons le faire dès maintenant. Et vous savez ce qu'est un culte ? Un culte, c'est tout simplement l'expression de notre admiration à l'égard de celui qui est l'admirable. N'est-ce pas qu'il est admirable ? Oui, il est vraiment l'admirable. Lorsque nous célébrons notre culte, nous n'adorons pas un homme, nous adorons celui qui vit de toute éternité. Nous nous prosternons avec les mages, nous nous prosternons avec les bergers devant celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si nous adorions un homme, nous serions des idolâtres, mais nous adorons celui qui est le Fils éternel de l'éternel Dieu. Notre culte doit être toujours une occasion pour nous de nous laisser éblouir par la lumière resplendissante de notre Seigneur. Notre culte doit être l'occasion pour nous de nous laisser baigner dans cette lumière éternelle de celui qui est la lumière et qui habite une lumière inaccessible, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a tellement de raisons pour lesquelles Jésus-Christ est admirable. Il est admirable parce qu'il est de nature divine. Il est admirable parce qu'il est la lumière éternelle. Il est admirable par sa naissance. Il est admirable par sa vie. Il est admirable par sa mort. Il est admirable par sa résurrection. Il est admirable par son ascension. Il est admirable par son exaltation. Il est admirable par sa souveraineté. Il est admirable par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté. Je pourrais continuer toute la journée. Ce serait sans limite. Et je ne pourrais pas détailler maintenant toutes ces raisons pour lesquelles Jésus-Christ est l'admirable, n'est-ce pas? Oh, ça commence à baisser, hein. À la fin, il n'y aurait plus de souffle, hein. Oui, il est vraiment l'admirable. Quelques raisons pour lesquelles il est l'admirable. D'abord, il est admirable pour sa nature divine. Oui, Jésus-Christ est le Dieu souverain. Maintenant, essayons de nous transporter quelque temps avec l'esprit, si nous le pouvons. Essayons de pénétrer l'éternité. Essayons de voir Dieu, ou tout au moins, ce qu'il nous laisse percevoir de lui, le peu qu'il nous laisse percevoir de lui, le peu que notre esprit est capable de saisir. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous trouvons Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est le Fils de Dieu qui est devenu homme parmi les hommes. C'est lui qui s'est revêtu de notre chair pour devenir comme l'un de nous. C'est le Fils éternel. Le Fils, il est lumière de lumière, Dieu de Dieu. Il est véritable Dieu de véritable Dieu. Par lui, toutes choses ont été créées. Il est vraiment de nature divine et dans sa nature divine, il est l'admirable. N'est-ce pas qu'il est l'admirable? Ah, ça commence à monter, c'est bien. Il est admirable. Et maintenant, pensez à ce Fils éternel de l'éternel Dieu qui habite une lumière inaccessible et qui devient un homme parmi les hommes. Lui, il va se laisser enfermer dans le ventre d'une femme alors qu'il contenait toute chose. Lui, il va se laisser emprisonner dans le temps alors qu'il a été le créateur du temps et il a vécu en dehors du temps et il vit en dehors du temps. Lui, il est le Tout-Puissant et il se laisse devenir pauvre parmi les pauvres. Lui, il est le plus riche, le plus fort, le plus puissant et il se laisse réduire à un être humain dépendant d'une femme, dépendant d'une mère, dépendant d'un père. Oui, le Seigneur Jésus est admirable par sa nature divine. Mais il est admirable aussi par sa naissance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous avez remarqué que ce verset commence par le mot « car ». Car, c'est une explication. Le mot introduit une explication de ce qui a été dit avant. Et ce qui a été dit avant, c'est que le peuple était dans une énorme joie. Au verset 2, le peuple se réjouit comme lorsqu'on partage le butin. Cette joie du peuple est décrite par des images pour exprimer son intensité. Et pourquoi ce peuple est dans la joie et dans cette joie immense? C'est parce qu'un enfant est donné à ce peuple. Mais remarquez comment Dieu nous parle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, c'est par référence à Jésus dans son humanité. Il est de chair et de sang. Comme nous. Un fils nous est donné. Ce n'est pas n'importe quel fils, c'est le Fils de Dieu. En Jésus-Christ, l'admirable, il y a l'union de Dieu et de l'homme. En Jésus-Christ, l'homme et Dieu s'embrassent pour ne former qu'un. En Jésus-Christ, Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. Et pour cela, nous sommes vraiment pleins d'admiration, parce que c'est un mystère qui nous dépasse. C'est pour cela que nous aimons Jésus. C'est pour cela que nous le bénissons. C'est pour cela que nous sommes en admiration devant lui. Comment cela est-ce possible? C'est le mystère de Dieu qui nous dépasse. Dieu a bien voulu être réduit à cette créature faible, dépendant des autres. Oui, l'infini est uni au fini. Le Créateur est uni à la créature. L'homme est uni à Dieu. Jésus est homme, mais il est Dieu. Jésus est homme, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et en lui, nous avons tout ce qu'il nous faut, tout ce dont nous avons besoin, comme nous le dit l'apôtre Paul. Et pour cela, nous ne pouvons que l'admirer. N'est-ce pas qu'il est admirable? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, l'homme qui est le souverain, qui est le roi des rois, devient un esclave. Celui sur la tête de qui repose la couronne de majesté, la couronne de gloire, accepte de devenir un homme sur qui on place une couronne d'épines. Et ça, aucun homme n'est capable de le faire. Seul l'admirable Jésus-Christ l'a accompli pour chacun de nous. Et en cela, il est vraiment admirable. Le Seigneur Jésus est admirable par sa nature divine, il est admirable parce que il est né de manière unique, par sa naissance, mais le Seigneur Jésus est admirable aussi par la lumière qu'il dégage de sa personne et parce qu'il a brillé de sa lumière sur les habitants de la terre. Il a apporté son salut à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il a apporté la lumière au peuple soumis au pouvoir des ténèbres. Regardez ce que Ésaïe dit au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple, bien sûr, il s'agit du peuple d'Israël, mais au-delà du peuple d'Israël, il s'agit de toute l'humanité. C'est sur l'humanité que la lumière divine de Jésus-Christ s'est levée. Et cette lumière, elle éclaire tous les hommes parce qu'elle n'est pas une lumière artificielle. Ce n'est pas une lumière superficielle. C'est la lumière authentique. Jésus-Christ est capable d'éclairer les hommes qui sont assis dans les ténèbres parce qu'il a en lui-même cette lumière qui se dégage de sa personne. Jésus n'est pas comme la lune qui ne fait que refléter la lumière du soleil. Jésus-Christ est le soleil qui produit de lui-même ce rayonnement et cette splendeur glorieuse par laquelle il fait briller sa lumière sur toute l'humanité. Jésus-Christ est la lumière issue de la lumière. Il est lumière et lumière et lumière, puisque Dieu est trois fois saint et trois fois lumière. Il peut éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres parce qu'il a cette capacité en lui-même. Il n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Il la trouve dans sa personne et dans sa nature divine véritable. Il paraît que ceux qui habitent au nord, vous savez, ceux qui habitent au pôle nord, voient longtemps les ténèbres. Et parce que la lumière leur manque, ils sont impatients de voir le soleil revenir. Alors, ils envoient des messagers pour chercher les hauteurs les plus élevées, et ces messagers montent sur ces hauteurs et scrutent l'horizon en attendant que les premiers rayons jaillissent. Et dès qu'ils voient les premiers rayons, ils commencent à revêtir leurs habits les plus merveilleux, et ils commencent à crier « Voici le soleil, voici le soleil !» Et ce cri se répand à travers tout le pays, et tout le monde est heureux, tout le monde est dans le bonheur, parce qu'enfin, les rayons du soleil sont là, et le soleil est là. Et alors le peuple de Dieu, il fait infiniment plus, parce que le soleil de justice s'est levé il y a 2000 ans. Et alors avec nous, le soleil de justice ne se couche plus jamais. On n'a pas besoin de le guetter pour qu'il réapparaisse. Il est là avec nous tous les jours et il brille de sa splendeur et de sa gloire. Mais vous savez, il y a un mystère qui est vraiment incroyable. C'est que Jésus-Christ, qui brille de sa lumière, ne peut nous éclairer aujourd'hui et éclairer notre vie que parce qu'il a accepté de se laisser saisir par les ténèbres. Si Jésus est la lumière du monde, c'est parce qu'il a accepté que les ténèbres s'attaquent à lui, que les ténèbres s'acharnent sur lui et que les ténèbres essaient même de l'étouffer pour un instant. Ça, c'est le plus grand des mystères. Et ça, c'est ce qui suscite de nous le plus d'admiration. Comment a-t-il accepté cette chose la plus abominable possible, la plus incroyable possible? Lui, la lumière divine, a accepté d'être étouffé pour un instant et prendre sur lui nos ténèbres afin que nous, nous brillions de sa lumière. C'est un échange extraordinaire et c'est un échange qui nous fait dire, n'est-ce pas qu'il est admirable? Absolument, elle est admirable. Vous vous rappelez que lorsque le Seigneur Jésus était dans le jardin de Gethsémani, on est venu pour l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui sont venus l'arrêter? Cette parole que je vous lis, dans Luc, chapitre 22, 53, voilà ce que Jésus dit à ceux qui sont venus l'arrêter. J'étais tous les jours avec vous, dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et quand il était cloué sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? De midi à 3 heures, il y a eu quoi? L'obscurité. Le soleil s'est obscurci. Luc 23, verset 44, nous lisons ceci. Il était déjà environ midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 15 heures. Le soleil s'est obscurci et le voile du temple se déchira par le milieu. Ces ténèbres qui ont envahi la terre, alors que le Christ était sur la croix de Golgotha, sont symboliques de ces ténèbres qui étaient les nôtres, qui ont envahi l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a accepté ça par amour pour nous, afin de nous délivrer de notre péché, afin de nous donner la lumière. Il a fallu cela. Il a fallu qu'il prenne sur lui nos ténèbres à nous. Il a fallu qu'il accepte de devenir ténèbres pour nous, afin que nous soyons lumière. C'est vraiment l'échange le plus incroyable. Le Fils de Dieu, l'adorable Fils de Dieu, l'incomparable, devient péché, devient malédiction, pour que nous nous échappions à la condamnation du péché et à la malédiction qui devait s'abattre sur nous. Et lorsque Jésus vient nous visiter et fasse briller et fait briller sa lumière sur nous, nous ne pouvons que l'accepter et nous réjouir en nous disant « Merci, merci pour le don incomparable que tu fais pour chacun de nous. » Jésus-Christ, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, Jésus-Christ, pour nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de gloire, a accepté lui-même d'entrer dans les ténèbres pour 3 heures. 3 heures. Autant dire l'éternité pour lui, parce que c'est l'innocent, parce que c'est la pureté même, c'est la splendeur même. 3 heures. 1 heure, ce serait déjà trop. 1 minute, ce serait trop pour le Fils de Dieu, pour le Seigneur de gloire. Mais il a accepté d'entrer dans un monde de ténèbres, de devenir homme parmi les hommes, de devenir esclave et même pire, de se laisser attaquer par ces ténèbres et de les assumer, de les prendre sur lui, de les laisser étouffer jusqu'à la mort, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut devenir la lumière du monde, parce qu'il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, et en cela, il est vraiment l'admirable, n'est-ce pas? Mais vous savez, les ténèbres qui se sont attaquées à notre Seigneur ne pouvaient pas l'étouffer définitivement. Il a fallu que du sein des ténèbres jaillisse la lumière. Les ténèbres se sont trompées. Le mal s'est trompé, croyant que s'acharnant sur le Sauveur, ils allaient l'étouffer à tout jamais. En fait, ils n'ont fait que donner plus d'intensité à cette lumière, qui a jailli du sein des ténèbres, plus resplendissante, plus forte, plus lumineuse, plus glorieuse. La résurrection de notre Seigneur, c'est la lumière qui envahit le monde. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et cela est très important pour nous, vous savez. On peut vivre des moments de ténèbres. On peut passer par les ténèbres. On peut traverser les ténèbres. Et quand je dis on peut, on traversera les ténèbres, tôt ou tard. Parce que nous sommes comme notre Seigneur. Et s'il a vécu les ténèbres un jour, nous vivrons les ténèbres un jour ou l'autre. Mais soyons sûrs que parce qu'il est notre lumière, sa lumière explosera, sa lumière jaillira avec plus de force, tôt ou tard, et elle chassera nos ténèbres. Je vais faire du latin avec vous. Peut-être que vous connaissez déjà Ex Tenebris Lux. Ça vous dit quelque chose? C'est la devise de Florence, la ville de Florence. Ex Tenebris Lux. Des fois, c'est marqué sur des bibles. Ça veut dire « Des ténèbres jaillira la lumière ». Ex tenebris lux. Des ténèbres jaillira la lumière. Oui, les ténèbres peuvent envahir le monde. Elles l'ont fait il y a 2000 ans. Mais la lumière du Christ a plus envahi le monde que les ténèbres. Et aujourd'hui, elle brille à travers le monde entier. Jésus-Christ est célébré à travers le monde entier. Jésus est admiré dans le monde entier. Jésus est admiré par nous ici et par nos frères à travers le monde entier. Jésus est admirable par sa nature divine. Jésus est admirable par sa naissance. Jésus est admirable parce qu'il est la lumière qui éclaire l'humanité. Et Jésus est admirable par le salut qu'il a opéré pour chacun de nous. Le peuple d'Israël était un peuple écrasé sous le joug de l'esclavage du peuple assyrien, mais aussi sous le joug du mal, du péché. Ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple qui ne voit pas la lumière, c'est un peuple qui était écrasé par le mal et par la déchéance morale. Et Jésus-Christ est venu pour apporter la libération à ce peuple. Le verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Au verset 1, nous voyons cette lumière qui resplendit sur le peuple. Et cette lumière qui resplendit sur le peuple a des effets incroyables. Elle produit la joie. Elle produit la délivrance. Elle produit la paix. La joie au verset 2, la délivrance au verset 3, la paix au verset 4. Les effets de la lumière sont ceux-là dans notre vie aussi. La joie, le salut et la paix. La paix les uns avec les autres, la paix avec notre Dieu. Jésus-Christ est venu non pas pour nous libérer des puissances et des forces humaines, des structures mondaines, des structures politiques. Jésus n'est pas Che Guevara. Jésus est un libérateur spirituel. Che Guevara, qu'est-ce qu'il voulait? Et tous les révolutionnaires, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent transformer la société dans laquelle le monde vit et dans laquelle ils considèrent que les hommes sont victimes. Jésus n'est pas venu pour changer un peu la société, il est venu pour nous arracher au monde et nous introduire dans un autre monde. Il n'est pas venu pour nous dire « Je vais améliorer un petit peu votre situation ». Il est venu pour nous dire « Vous êtes dans les ténèbres et je vais vous arracher aux ténèbres pour vous transporter dans mon royaume de lumière. C'est là où vous allez vivre. C'est là où vous allez passer le temps de communion avec Dieu, avec le Père de gloire. » Jésus-Christ n'est pas venu pour accomplir un salut politique. Il est venu pour accomplir une révolution du cœur. Non pas la révolution politique, mais la révolution de notre cœur. Alors je continue rapidement. Jésus-Christ est admirable parce qu'il est de nature divine, parce qu'il a, par sa naissance, parce qu'il est la lumière, parce qu'il a accompli un salut extraordinaire. Et Jésus-Christ est admirable parce qu'il est le prince de paix. Là, on pourrait passer toute une journée sur ce qu'il a accompli pour nous. Vous savez, lorsque nous voyons le monde, depuis la création du monde, le monde n'a pas connu le répit. Le monde est constamment en guerre. Il y a forcément des guerres quelque part. Et l'aspiration de toute l'humanité, c'est la paix. C'est le désir de paix. Et ce paix ne sera réalisé que par celui qui est le prince de la paix, par Jésus-Christ. Notre Seigneur. Il est vraiment admirable, n'est-ce pas? Moi, vous allez le dire plus fort que ça. Il est vraiment admirable. Jésus-Christ est admirable, on va le refaire, par sa nature divine, par sa naissance, par sa lumière, par le salut, par la paix, par sa vie. Toute sa vie a été l'occasion pour les autres d'être en admiration. Vous vous rappelez les foules qui voyaient Jésus-Christ accomplir des miracles? Ils étaient étonnés. Elles étaient dans l'admiration. Matthieu 15 nous dit cette parole. La foule s'émerveillait devant lui. Elle s'émerveillait de voir les sourds muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Quand ils voyaient Jésus-Christ agir, ils ne pouvaient s'empêcher de faire éclater leur joie et leur louange à l'égard du Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Mais Jésus-Christ est admirable aussi dans sa mort. Lorsqu'il a expiré en étant cloué sur une croix, un homme était vraiment étonné de le voir mourir de cette mort-là. Et vous savez ce qu'il a dit cet homme-là? Certainement, cet homme est fils de Dieu. C'est un Romain, un soldat, un centenier, c'était pas un Juif. Le voilà surveillant un homme cloué sur une croix. Et il ne peut s'empêcher de dire cette parole. Qu'est-ce qui a arraché cette parole de son cœur? La manière dont Jésus est mort. Les mots qu'il a dit alors qu'il était sur la croix. Et le centenier finit par dire, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Et nous disons la même chose. Certainement, Jésus de Nazareth, celui qu'on a méprisé, celui qu'on a humilié, celui qu'on a insulté, celui qu'on a cloué, celui qui est mort sur la croix comme un esclave, cet homme est le Fils de Dieu. C'est lui qui est né comme don de la part de Dieu à toute l'humanité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Le Seigneur Jésus est admirable pour tant de choses. Je voudrais qu'on les récapitule et que vous les gardiez dans votre cœur pour penser en cette saison de Noël à ce Sauveur admirable, n'est-ce pas? Jésus-Christ est admirable par sa nature divine, il est admirable par sa naissance, il est admirable parce qu'il est la lumière, il est admirable par le salut qu'il nous apporte, il est admirable parce qu'il est le Prince de paix, il est admirable par sa vie, il est admirable par sa mort, mais nous pouvons continuer, n'est-ce pas? Il est admirable par sa résurrection, et ainsi de suite. Que le Seigneur, qui est la lumière du monde, habite notre vie et éclaire notre vie et notre chemin pour que nous marchions dans sa lumière et à sa lumière. Le monde nous offre des lumières artificielles. Le monde veut nous faire croire que nous pouvons marcher sur au rayonnement de lampes qui ne durent pas, qui s'étouffent, qui finissent par mourir. Seul Jésus-Christ est la lumière éternelle qui brillera de toute éternité et qui éclaire notre vie à tout jamais et à toujours.